8h16 sur France Culture, l'éducation, écrivait le sociologue Émile Durkheim, a pour objet de superposer à l'être individuel et asocial que nous sommes en naissant, un être entièrement nouveau. Cette mission est-elle encore possible aujourd'hui? Pour en parler, je suis en compagnie de Philippe Mérieux, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2, Agnès Van Zanten, sociologue de l'éducation et directrice de recherche au CNRS, et puis François-Xavier Bellamy, bonjour, vous êtes professeur agrégé de philosophie et enseignant en Cannes à Paris. Mais tout d'abord, on parle énormément de la réforme du collège. Agnès Van Zanten, en tant qu'observateur neutre, est-ce que vous pourriez tenter de nous résumer cette réforme, nous dire en quoi elle consiste ?
Je crois qu'on a beaucoup insisté effectivement sur la nécessité à l'intérieur des collèges de diminuer le poids des options et notamment la place que prennent ces options dans la construction. On a à tort évoqué le terme des parcours d'élite parce que en fait il faut plutôt parler des parcours protégés. C'est pas nécessairement dans les établissements les plus favorisés où l'on voit ces options jouer un rôle ségrégatif à l'intérieur de l'établissement. C'est plutôt dans des établissements publics soumis à une forte concurrence d'autres établissements publics, mais beaucoup plus souvent encore d'établissements privés. D'ailleurs, on a pu montrer dans nos études une corrélation forte entre la présence d'établissements privés et le poids des options dans les établissements publics pour construire des parcours pour les élèves. Alors effectivement, ça a déclenché une polémique parce que ça peut remettre en cause la valeur de certains enseignements qui n'est certainement pas en cause. L'enseignement du latin, l'enseignement de certaines langues comme l'allemand, c'est simplement, effectivement, qu'ils sont utilisés pratiquement à la demande des parents ou à la demande d'enseignants qui cherchent ce qu'ils appellent parfois des classes oasis à construire ces parcours à l'intérieur des établissements. Et cela pose problème parce que cela va contre véritablement la logique du collège unique. Donc cette réforme, elle est importante de ce côté-là, mais elle ne s'attaque pas à l'essentiel. Pourquoi on construit cela ? Comment cela se fait? Et surtout, elle s'attaque pas du tout, et là, une grande déception de ma part, à la concurrence entre les établissements et qui est à l'origine de ces mécanismes internes.
On a entendu dire, Agnès Van Zanten, que la gauche voulait en finir avec les filières élitistes, qui avaient en quelque sorte une victoire posthume de Pierre Bourdieu, le sociologue qui voulait lutter contre la reproduction scolaire. Il aurait été en quelque sorte entendu par la gauche au pouvoir aujourd'hui, qui serait en quelque sorte décidé à détricoter toutes les ruses, en quelque sorte, de la classe dominante pour tenter donc d'éviter de se mélanger avec le reste de la population. A-t-on raison de dire cela, selon vous ?
C'est des bien gros mots et c'est vrai que depuis longtemps, on utilise Pierre Bourdieu en France à toutes les sauces et pour toutes sortes d'initiatives et des politiques en son nom. Je pense effectivement, comme je viens de le dire, qu'il y a effectivement besoin de réfléchir à l'organisation interne des collèges, à ce qui se fait. Mais cette organisation interne elle-même est étroitement liée à ces mécanismes de concurrence que je viens de décrire qui sont très forts dans les systèmes d'enseignement. Par ailleurs, l'autre volet important de cette réforme concerne les programmes d'enseignement. C'est tout à fait important de réfléchir à qu'est-ce qu'on enseigne. Malheureusement, dans la façon dont on travaille aujourd'hui, on n'a pas encore donné assez de place à comment on enseigne et à quel point c'est important, même si en France, c'est considéré comme relevant de l'autonomie des enseignants et donc très peu contrôlé. Et surtout à comment on évalue les élèves, parce que les modes d'évaluation très individualistes qu'on a en France sont un des phénomènes qui contribuent très fortement à la reproduction que l'on observe dans les établissements d'enseignement.
Vous savez que vous faites déjà sourire François-Xavier Bellamy, qui est plutôt en désaccord avec cette réforme. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, François-Xavier Bellamy. Vous êtes également adjoint au maire de Versailles. Vous avez plutôt une vision proche de celle des républicains et de l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ?
Mais ce propos n'est pas lié du tout à une question de parti. Je ne suis pas engagé dans un parti et je crois que d'ailleurs aujourd'hui dans les partis, les visions de l'éducation sont finalement très variées et très diversifiées. En réalité, je crois que l'école a poursuivi une seule et même voie depuis une quarantaine ou une trentaine d'années et que c'est exactement la voie que vous venez de décrire, c'est-à-dire la volonté de lutter contre les inégalités, mais en supprimant tout ce qui peut être une occasion de soupçonner des ségrégations sociales. Et on arrivera à cette égalité réelle que lorsqu'on aura fait le vide complet à l'intérieur des établissements scolaires. En réalité, ce ne sera d'ailleurs pas un triomphe de l'égalité, mais c'est l'inégalité qui ne cesse de se renforcer. Nous avons aujourd'hui le système scolaire le plus inégalitaire qui soit, et avec cette réforme, nous sommes en train de priver les élèves qui en avaient besoin de dernières occasions de sortir de leurs conditions. Car nous ne nous faisons aucune inquiétude pour les élèves des milieux les plus favorisés, des familles les plus installées. Ils trouveront toujours l'occasion, eux, de faire du latin et du grec dans des établissements privés ou dans des officines privées qui profitent à plein de la crise de l'éducation nationale. Ceux qui vont souffrir de cette réforme, ce sont précisément les élèves de Seine-Saint-Denis où le latin et le grec s'étaient le plus développés ces 10 dernières années et qui, c'est vrai, trouvaient dans cet enseignement non pas seulement une stratégie sociale pour s'en sortir, mais une occasion de remédiation à la crise de la transmission de la langue et de la culture. C'était pour beaucoup d'élèves l'occasion de renouer avec des racines culturelles décisives et c'est exactement de cela que nous sommes en train de les priver. Et c'est une tragédie, cette réforme est une tragédie. Elle est en réalité non pas le dernier acte, mais un acte supplémentaire dans la tragédie de l'éducation nationale que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que nous déconstruisons progressivement la transmission des connaissances et que ceux qui en payent le prix, ce ne sont pas ceux qui, évidemment, auront toujours les moyens de s'en sortir, les plus favorisés, les plus privilégiés, les plus protégés, mais ce sont ceux qui, au contraire, viennent des milieux sociaux les plus défavorisés qui en souffrent directement.
Je ne sais pas si votre propos est partisan, mais en tout cas, on l'a entendu, vous n'êtes pas véritablement partisan de cette réforme. Philippe Mérieux, cette réforme est-elle défendable ?
Oui, moi, elle me paraît défendable. Comme Agnès, je pense que elle ne pose pas les problèmes d'une manière suffisamment forte, hein, et en particulier, Agnès a évoqué la concurrence entre les établissements. Moi, j'évoquerai d'autres questions, y compris au plan pédagogique. Je pense que elle se contente de mettre quelques rustines ici ou là. Mais moi, je ne partage pas l'idée qu'elle s'attaquerait frontalement à l'idée de transmission. La transmission est au cœur de l'institution scolaire. Elle n'est pas fondamentalement liée à l'apprentissage du latin et du grec, même si je suis moi-même latiniste et si j'aime bien le latin. J'ai, quand j'étais jeune professeur dans des sections modernes, à l'époque où il y avait les sections modernes et les sections classiques, enseigné une discipline qu'on appelait les textes anciens. J'ai enseigné Sophocle, j'ai enseigné Ovide à des élèves de sections modernes, mais en français. Et je crois que étudier Ovide en français, ça ne leur a pas été inutile. Ils ont découvert des textes. Je crois qu'à travers les programmes qui sont proposés, on est petit à petit, pas suffisamment à mon goût, mais petit à petit quand même, dans une redécouverte de la fonction de ce que M. Couturier avait appelé tout à l'heure dans sa chronique la grande culture, la haute culture. Moi, je suis partisan d'une haute culture accessible à tous, mais pas à travers un certain nombre de parcours protégés qui fait que certains auraient cette grande culture et pas d'autres. Et je crois que l'enseignement personnalisé, les travaux pratiques interdisciplinaires qui sont proposés et des programmes qui sont encore, me semble-t-il, à améliorer pour introduire cette culture, pour introduire une meilleure maîtrise de la langue écrite qui me semble particulièrement menacée dans l'institution scolaire aujourd'hui et menacée pas seulement en raison de l'école, hein, mais de toute la société. Tout cela peut encore être travaillé et que nous allons plutôt dans le bon sens, même si effectivement certains peuvent se trouver dans des classes où ils ne seront pas qu'avec des élèves de leur milieu et ils devront côtoyer des élèves peut-être un petit peu moins bien élevés.
François-Xavier Benhamy, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ce que vient de dire Philippe Mérieux.
D'abord, je crois encore une fois que cette réforme ne changera rien sur le plan de l'égalité. Elle construit, elle continue, elle poursuit dans la logique qui organise et qui structure l'inégalité à l'école et qui ne cesse de la renforcer. Et encore une fois, je reviens à un concept qui est décisif et j'espère que les auditeurs le comprennent bien. Je suis très heureux de vous entendre, Monsieur Mérieux, dire que la transmission est au cœur de la mission de l'école. De fait, ça n'a pas toujours été, je crois, le discours que vous avez défendu.
Mais si !
Non, pardonnez-moi, j'ai été formé.
J'ai
été moi-même formé autour de la grande idée qu'ont défendue les pédagogues, selon laquelle l'élève doit construire son propre savoir. Et c'est encore, vous citiez l'exemple des enseignements pratiques interdisciplinaires. C'est exactement l'exemple de cette idéologie que nous avons poursuivie pendant si longtemps. Nous allons mettre ensemble des élèves qui ont, et tout le monde le reconnaît, la ministre la première, c'est d'ailleurs une chance, les choses ont changé. On reconnaît enfin que la maîtrise des fondamentaux n'est plus acquise aujourd'hui, que c'est d'ailleurs le défi fondamental de l'école. Et pourtant, on persiste dans cette voie qui consiste à faire, par idéologie, La transformation d'une école qui transmet des connaissances à une école qui organise des activités dans laquelle l'élève est censé produire son propre savoir. Eh bien, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne toujours pas, qu'on le veuille ou non. Les TPE qui ont été, par exemple, les pionniers dans cette inspiration, les travaux personnels encadrés, le syndicat des inspecteurs d'académie le reconnaissait récemment dans un courrier à la ministre, ces TPE bénéficient le plus aux élèves les plus favorisés, mais les élèves qui sont en difficulté n'en bénéficient pas. Et on le comprend bien. Comment peut-on produire des savoirs que l'on n'a jamais reçus? Nous avons reçu des savoirs, nous avons cessé de les transmettre et c'est ça qui cause l'inégalité fondamentale de l'école. Non.
Brice Couturier.
Oui, je veux quand même faire remarquer à travers, vous savez, j'adore les sondages et les recherches et les chiffres, je ne vais pas vous en assommer aujourd'hui, mais enfin, reconnaissons autour de cette table que notre système scolaire a des rendements décroissants, pour le dire de manière simple. D'une part, parce que le niveau baisse, les rapports PISA, les sondages PISA le montrent rapport après rapport. D'une part, il y a une inadéquation des formations à l'emploi, surtout aux emplois de demain, et puis surtout, notre système qui se voulait républicain et égalitaire, comme on l'a déjà dit, ne cesse de renforcer ces inégalités de départ au lieu de les compenser. Alors, face à ces rendements décroissants de notre système, effectivement, un certain nombre de familles d'initiés, qu'elles soient issues des classes aisées ou des milieux d'enseignants eux-mêmes, qui connaissent bien le système puisqu'ils en sont les acteurs, ont fait en sorte, par des stratégies adaptées, de faire échapper leurs enfants au pire du système. Et les classes d'excellence, les filières d'excellence, celles qu'on veut supprimer aujourd'hui, faisaient partie de ces stratégies d'évitement d'un système qui, il faut le reconnaître, se porte fort mal. Alors, est-ce que la question fondamentale, c'est celle-là? Est-ce que supprimer ces filières d'excellence qui étaient destinées à sélectionner à l'intérieur des élèves de tout milieu une minorité destinée à des études supérieures brillantes, est-ce que les supprimer va améliorer le rendement général du système? Est-ce qu'elle va améliorer, lutter contre les inégalités sociales qu'il s'agit de d'éradiquer? Ou est-ce qu'au contraire, ça va les renforcer? Je crois que c'est vraiment la question que se posent les parents aujourd'hui en tant que consommateurs du système scolaire.
Et on va poser la question immédiatement à Agnès Van Zanten.
Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, d'une part, il faut voir quels sont les élèves qui bénéficient de ces classes dans les établissements. On a parlé tout à l'heure des classes de Saint-Denis. Heureusement, en France, malgré l'accroissement de la ségrégation, on n'est pas encore dans un contexte dans lequel il n'y a pas dans ces écoles que des élèves des milieux défavorisés. Les analyses que nous disposons, qui sont extrêmement nombreuses, montrent que la majorité des élèves de ces classes sont plutôt des élèves des classes moyennes que des élèves des classes défavorisées. Pour autant, on en trouve des élèves des classes défavorisées, et heureusement. Mais est-ce que l'égalité, ça doit être d'extraire quelques-uns pour les pousser le plus loin possible? C'est un modèle d'égalité des chances qui prédomine en France, mais qui fait concevoir l'égalité comme la réussite excellente de quelques-uns, qui est encore possible aujourd'hui, entre autres par ces filières-là. Personnellement, ce n'est pas la vision que je défends. Je pense que, effectivement, une société comme la société française aujourd'hui doit pousser le plus grand nombre d'élèves le plus haut possible. Ça n'implique pas un renoncement au niveau des contenus, loin de là, mais comme disait Philippe Mérieux, la question est comment on enseigne pour mener le plus grand nombre d'élèves le plus loin possible. Par ailleurs, je suis un peu agacée des discours qui prétendent que les enseignants français aujourd'hui enseigneraient d'une façon dans laquelle ils mettent totalement les élèves au centre du système, dans lequel les élèves construisent le savoir. Aucune enquête en France aujourd'hui n'a montré cela.
François Xavier Bellamy, votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous considérez que, par exemple, ce discours est en contradiction avec la réalité?
Non, c'est vrai. De fait, les enseignants continuent de transmettre parce que c'est leur mission. Vous l'avez dit d'ailleurs dans la première partie de cette émission, c'est le cœur de leur vocation. Mais c'est vrai que beaucoup d'enseignants aujourd'hui, pendant leur formation, ont été culpabilisés, même d'éprouver ce désir de transmettre. Et on leur a expliqué, c'est le travail de Pierre Bourdieu, par exemple, que cette envie de transmettre, c'était un désir de se reproduire socialement. C'était, au fond, le besoin de trouver une justification à la culture que l'on avait reçue et d'infliger le poids de sa supériorité à des générations d'élèves qui, de fait, s'en trouvaient les victimes opprimées. En réalité, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la transmission de la culture. Et je ne comprends pas pourquoi on parle ici de classe d'excellence, comme s'il fallait détruire les têtes qui sortent, ce qui compte fondamentalement. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point. C'est d'offrir le meilleur à tous les élèves. Pourquoi n'y aurait-on pas proposer le latin et le grec à tous les élèves de France plutôt que de supprimer une option latin-grec au motif qu'elle permet à certains de s'en sortir? Pourquoi ne proposerait-on pas un enseignement de grande qualité, la transmission du meilleur de notre culture à tous les élèves. Et je crois aussi qu'il faut que nous portions notre attention.
Pourquoi vous voyez bien,
François-Xavier Bellamy, sur la variété des formes d'excellence.
Vous voyez bien pourquoi on ne le fait pas. Vous voyez bien qu'il y a tout d'abord un cadre budgétaire. Actuellement, c'est la gauche qui est au pouvoir, mais si d'aventure la droite revenait au pouvoir, on imagine qu'elle aurait également à gérer l'éducation nationale avec les contraintes que cela suppose. Donc c'est trop facile de dire qu'on pourrait faire en sorte que tout le monde apprenne le latin.
Mais l'éducation reste aujourd'hui le premier budget de la nation. L'éducation est aujourd'hui un investissement majeur de notre pays. Ce qui compte, c'est de savoir quelle finalité nous donnons à cet outil fabuleux qu'est l'école, quel but nous donnons aux enseignants qui la font vivre, quel sens nous donnons à l'acte d'enseigner. Et c'est précisément sur cette question du sens que je crois la crise se situe aujourd'hui, peut-être plus que sur la question des moyens, même s'il y aurait des problèmes de moyens à revoir. Et de ce point de vue-là, encore une fois, plutôt que de culpabiliser sans cesse tout ce qui fonctionne dans notre pays, plutôt que de déconstruire tout ce qui réussit encore, eh bien, choisissons au contraire résolument de transmettre le meilleur à chaque élève en portant notre attention aussi, et c'est un point très important, sur les variétés des formes d'excellence. J'ai eu la chance d'enseigner la philosophie dans des classes de STI, dans des classes d'hôtellerie-restauration. J'ai vu des élèves qui développaient une excellence propre dont je suis admiratif. Ce qui compte, ça n'est pas forcément d'emmener chacun vers un seul modèle de réussite, mais d'accompagner chaque élève vers le meilleur de sa réussite.
Philippe Mérieux, il y a eu malgré tout un certain nombre de discours anti-élitistes de la part notamment de la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem. S'agit-il d'un dessein, d'une véritable politique ou bien tout simplement d'une maladresse d'un ministre ?
Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'anti-élitisme. La France a fait le choix d'une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. L'Europe fait le choix d'une école fondamentale pour tous. La question est de savoir si le collège poursuit cette vocation, c'est-à-dire se donne comme objectif de faire atteindre à tous des fondamentaux de la culture, de la citoyenneté, leur permettant de se repérer dans leur histoire, leur permettant de comprendre le monde qui les entoure, ou si le collège est la préfiguration du lycée, et si, dès la sixième, on organise les choses en fonction des classes préparatoires aux grandes écoles. Moi, je suis pour la première option. Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des citoyens à deux vitesses. La démocratie a besoin de citoyens lucides, de citoyens informés, de citoyens éclairés. Et l'ambition de la France, c'est de permettre qu'à la fin du collège, on n'ait pas développé l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un peu comme la Française des Jeux. On sort quelques élèves du 93, on les met dans les classes prépa. Ça ne sauve pas le 93. Moi, j'ai été un peu choqué d'entendre M. Couturier parler des parents consommateurs. Moi, je pense que l'école est une institution, ça n'est pas un service. Que les parents ne sont pas des consommateurs, que ce sont des citoyens. Et qu'à ce titre, la vocation de l'école, c'est une vocation qui a profondément à voir avec la structuration de l'État, avec l'organisation de la démocratie, et que l'impératif d'une grande culture pour tous, d'une grande culture orale, d'une grande culture écrite, d'une grande culture historique, est un impératif qui s'impose. Moi aussi, je souhaite que tous les élèves de collège aient accès à la culture gréco-latine. Moi aussi, je souhaite qu'ils aient tous accès à la littérature. Alors,
pourquoi soutenir cette réforme ?
Mais je soutiens cette réforme parce que précisément,
c'est une contradiction absolue.
Non, elle va dans le sens de cette transmission. Quand tu as un mot,
pardonnez-moi, mais quand on veut que tous les élèves aient accès à la culture gréco-latine, on ne soutient pas une réforme qui supprime purement et simplement l'option de latin et de grec.
C'est une contradiction. On soutient une réforme qui va permettre, à travers certains enseignements, à des élèves qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent, d'accéder à une culture gréco-latine en français.
Monsieur Couturier va répondre malgré tout.
Juste un mot quand même sur la construction des savoirs.
Personne n'a mis en cause.
Les élèves construisaient seuls leurs savoirs. Les élèves ne construisent pas seuls leurs savoirs. Nous transmettons des savoirs dans des situations où ils sont confrontés à des problèmes, mais jamais je n'ai renoncé, ni aucun enseignant n'a renoncé, à sa place pour mettre les élèves en discussion sympathique et leur faire redécouvrir spontanément la relativité générale d'Einstein. Enfin,
Brice Couturier.
C'est une stupidité.
Oui, je tiens, moi, au qualificatif de consommateur. Les familles sont consommatrices de services et il vaut mieux être consommateur qu'administré. Qu'est-ce que ça veut dire être consommateur ? Ça veut dire pouvoir faire des choix et pouvoir faire jouer la concurrence à son propre profit. Dans la plupart des pays d'Europe, c'est ce qui est en train de se mettre en place à travers la notion d'autonomie des établissements. À savoir que quand un établissement, par exemple en Grande-Bretagne, c'est ce qui a été mis en place. Quand un établissement voit les familles le déserter, eh bien, il est fermé. Et le directeur de cet établissement en est puni. Parce qu'effectivement, il n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, que les familles puissent choisir, que les familles puissent faire bénéficier leurs enfants des meilleurs services possibles en faisant jouer la concurrence entre les établissements.
Agnès Van Zanten.
On est effectivement dans des sociétés aujourd'hui des choix et on ne peut pas interdire aujourd'hui aux parents de choisir ce qui est pour eux une des choses les plus importantes alors qu'ils choisissent dans d'autres domaines de leur vie. Le problème, c'est sur quelle base on choisit aujourd'hui. Et l'on sait bien que ce choix se fonde beaucoup moins sur des critères véritablement d'évaluation du fonctionnement des établissements que des critères d'évitement de certains groupes sociaux. Et donc, le problème, c'est comment produire des choix qui soient véritablement des choix informés qui permettent effectivement un fonctionnement efficace et non pas un accroissement des ségrégations. Parce que ce qu'on voit dans beaucoup de pays, on cite souvent l'Angleterre, mais c'est plus intéressant de voir ce qui est en train de se passer en Suède, qui était un pays dans lequel effectivement on avait atteint un très haut niveau d'égalité, en même temps avec une très grande efficacité du système, et comment on a détricoté cela avec notamment l'implantation des établissements privés qui choisissent leurs élèves et que les parents peuvent choisir. Et cela effectivement a diminué à la fois l'efficacité et l'égalité au sein du système suédois.
Philippe, j'entends bien M. Couturier dire qu'il est contre le service public. On fermera aussi les tribunaux dont on juge qu'ils jugent mal, les gendarmeries quand on imagine que les gendarmes...
Je n'ai pas entendu dire ça.
Non, mais c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit la notion même de service public est obsolète.
Il y a des pouvoirs régaliens de l'État et ceux-là, évidemment, doivent rester des monopoles publics.
Mais
par contre, les services publics, eux, peuvent effectivement être mis en concurrence les uns avec les autres. C'est ce qui se fait de plus en plus dans l'ensemble de l'Europe,
d'ailleurs. Les services publics doivent être pilotés par un État qui se donne des ambitions pour tous. Pourquoi on est aujourd'hui en situation de difficulté avec notre école, c'est évidemment parce qu'il y a de l'échec scolaire, mais c'est aussi parce que nous sommes tous très ambitieux pour notre école. Notre école, il y a 20 ou 30 ans, produisait presque autant d'échecs scolaires qu'aujourd'hui. Moi, quand j'étais en 6e, on était 12% à être en 6e. Ça gênait personne parce qu'on n'était pas ambitieux.
L'illettrisme a progressé de façon spectaculaire.
On n'était pas ambitieux pour notre école. Aujourd'hui, on est ambitieux. D'accord sur, non pas l'illettrisme, mais une certaine désaffection de la langue. Mais d'accord aussi avec moi que ce n'est pas que l'école quand même.
Bien sûr.
Aussi les familles, c'est aussi la publicité, c'est aussi les médias, c'est aussi toute une série d'usages de l'écrit qui sont devenus aujourd'hui obsolètes et que l'école doit précisément contribuer à réhabiliter pour tous et pas simplement pour ceux qui ont la bonne stratégie et qui toucheront le chèque éducation de M. Madelin pour aller faire la queue devant Saint-Thomas d'Aquin à Paris.
François-Xavier Bellamy.
Ce qui est clair, c'est qu'il faut éviter à tout prix le risque qui menace aujourd'hui notre école. Et l'école de la République est un idéal à défendre. Il faut éviter à tout prix le risque d'une forme de balkanisation ou de communautarisation définitive de l'école qui est, malgré tout, à l'intérieur de notre système public, déjà pour une part en train de se produire. Mais le problème, c'est que si nous sommes conduits et si les parents sont légitimement, il faut le dire, inquiets et conduits vers des stratégies d'évitement, mais c'est tout à fait nécessaire précisément parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants et que l'école de leurs enfants, l'école où on a inscrit d'office leurs enfants n'est pas toujours, c'est vrai aujourd'hui, en mesure de le leur donner malgré l'investissement des enseignants. Et donc le vrai problème, c'est que nous sommes poussés dans les bras d'un discours très libéral et très consumériste vis-à-vis de l'éducation par l'incapacité du système public de s'évaluer lui-même. Comment se fait-il? Arrêtons-nous simplement à ce point-là. Qu'avec l'investissement que la nation fait d'une part et qui est tout à fait nouveau. Deuxièmement, avec les connaissances que nous avons de la catastrophe qui touche à la lecture, nous soyons incapables d'avoir un débat serein sur les méthodes d'enseignement de la lecture. C'est cette incapacité de s'évaluer, de remettre en cause ce qui n'a pas fonctionné, et la réforme du collège en est un exemple supplémentaire, qui nous pousse droit dans les bras de cette balkanisation définitive.
Merci à tous les quatre d'avoir échangé vos arguments autour de l'école dans un climat malgré tout serein, même si on a bien entendu qu'il y avait des oppositions franches et nettes en matière de doctrine scolaire.